Mercredi 22 avril avait lieu l'avant-première du film De mauvaise foi. Nous sommes avec Albéric Saint-Martin qui est le réalisateur de ce film. Premier film pour vous, Albéric?
Oui, bonsoir. C'est mon premier long métrage de cinéma, donc beaucoup d'émotions et puis aussi de fierté parce que c'est pas rien de présenter un film devant une salle aussi comble. Et voilà, je suis heureux parce qu'on a eu de très bons retours sur le film et j'ai pu aborder plein d'aspects de la réalisation de ce film ce soir.
Comment on se lance dans une telle aventure?
Il faut un petit peu de folie et d'inconscience parce qu'on se rend, déjà on se rend jamais compte du temps que ça va vous prendre et du nombre de mois que vous allez consacrer à ça, surtout quand vous avez une petite famille et puis des enfants en bas âge, comme c'est mon cas. On se pose pas trop la question là. Et puis ça a été un travail de quasiment 3 ans en fait, en additionné, en comptant l'écriture, le tournage, le montage. Donc j'arrive quasiment au bout de cette aventure et je suis impatient qu'il sorte en salle.
Donc c'était aussi le premier film donc pour vous en tant que réalisateur et également le premier film produit par Sage Distribution.
Exactement, Sage depuis plus de 10 ans distribue des films et là c'était leur premier pas dans la production, donc j'avais aussi cette double pression au-delà de la pression à titre personnel que je pouvais avoir moi de réaliser un premier film, que ce soit un premier film dont ils soient fiers aussi. Donc ils ont fait partie intégrante de l'écriture, de la pré-production, du tournage, de la post-production. Voilà, c'est aussi leur bébé, c'est un bébé Sage.
Et alors, comment ça se passe? J'ai cru comprendre que c'était une adaptation d'un livre.
Oui, c'est une adaptation d'un roman qui s'appelle « Les pieuses combines » de Réginald, écrit par Thomas Hervouet. Un roman très amusant, assez foisonnant, avec plein d'esprit et de drôlerie. Et on s'est attaché à essayer de retrouver l'esprit de ce livre dans notre scénario et dans notre film.
Alors justement, est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous présenter l'histoire du film, sans tout dévoiler?
Alors, les pieuses combines originales, donc nous, c'est De mauvaise foi, le titre du film. C'est l'histoire de, entre autres, mais c'est, on va dire qu'on suit les aventures de Réginald de Levaillant, qui est un notaire vieille France, qui a un château complètement délabré, en tout cas, qui se casse un peu la figure. Et en fait, ces deux problèmes, c'est voilà, trouver les sous pour réparer son château et aussi essayer d'évincer le prétendant qu'a ramené sa fille chérie Athénaïs. Qui est nous on appelait ça un golden boy, je ne sais pas si ce terme parlera à tout le monde, en tout cas voilà, c'est un gars un peu prétentieux qui n'a pas du tout les codes de la famille, et en gérant la succession d'une vieille comtesse fortunée, Réginald pense trouver la solution à son problème, notamment la personne d'un héritier providentiel qui s'appelle Arthur Chambourcy.
Et alors quand on se lance comme ça sur un film, donc De mauvaise foi, vous parliez, vous êtes dans la sélection festival du film d'Huez, qui vous ont mis dans la catégorie, une nouvelle catégorie, film spirituel, c'est ça?
Comédie spirituelle, en fait, oui, le festival de l'Alpe d'Huez. Alors ça a été une merveilleuse aventure pour nous et pour moi, parce que c'est un premier film, moi j'avoue que j'y croyais pas, c'est-à-dire que quand les organisateurs, après avoir entendu parler de notre film à Deauville, au Congrès des exploitants, sont venus voir le film en salle de montage, je m'étais dit, bon, on va pas rêver, c'est absolument impossible qu'ils nous sélectionnent, ils nous ont sélectionnés. Je pense que le ton de ce film qu'ils ont estampillé comédie spirituelle les a un peu interpellés, ils sont très friands de découvrir de nouveaux univers de comédie, de nouveaux styles de comédie, et c'est ce qui fait la richesse de ce festival, c'est vraiment un festival de connaisseurs, de gens qui voient beaucoup de comédies. L'accueil qu'on a eu là-bas par le public nous a beaucoup encouragés pour la suite de la post-production. On était en pleine post-production à ce moment-là. On avait encore quelques mois derrière nous. Et ce festival a été un baume au cœur pour nous.
Alors, comment on choisit les acteurs qu'on va embarquer dans une telle aventure? Est-ce que déjà, il faut des acteurs croyants?
Je ne pense pas. Par la force des choses, tous nos acteurs n'étaient pas croyants. Certains l'étaient, d'autres non. Certains étaient en chemin. C'est ce qui a fait aussi la richesse du film. Je pense que même le propos de notre film, commander un peu cela, c'est-à-dire que je pense que ça n'aurait pas été aussi intéressant que ça d'avoir que des acteurs croyants ou alors que des acteurs incroyants. Je pense que ça s'est aussi déjà vu par le passé, je pense qu'on a dû avoir des films un peu dans ce style-là. On a un film qui pose beaucoup de questions aussi, donc on ne voulait pas être dans des affirmations, ou on ne voulait pas délivrer un message de manière un peu péremptoire, on voulait être dans une espèce de zone grise, de petite zone de crête, Je pense que le propos du film en sort renforcé en fait d'avoir ces sensibilités différentes là. Nos acteurs ont apporté énormément de choses en fait personnelles à leurs personnages et moi j'étais vraiment friand de ça. Je leur avais dit dès la lecture du scénario, on a fait plusieurs passes sur le scénario et leur dialogue en disant n'hésite pas à tirer le personnage vers ce que tu es, vers ce que tu ressens et vers ce que tu penses qu'il dirait en fait. Et je pense que tout ça a apporté une épaisseur psychologique à l'histoire et à leurs personnages.
Ça veut dire qu'on a aussi une bonne part d'improvisation ou pas tant que ça quand même ?
Par improvisation, si on entend création, en tout cas sur le moment, oui. J'allais dire, ça reste de l'improvisation cadrée parce qu'on est dans quelque chose qui est très normé, dans le sens où il y a beaucoup de métiers qui rentrent en ligne de compte. Chaque minute est comptée sur un tournage parce que chaque minute coûte très cher. Donc on ne les fait pas partir non plus en roue libre complètement. Mais on est très à l'écoute et surtout, moi en tant que réalisateur, j'étais très à l'écoute de ce qui pouvait être... de ce qu'il pouvait amener, de ce qu'il pouvait sortir pendant le tournage. Quelquefois, un acteur, il a une espèce de fulgurance, il va sortir quelque chose qui n'était pas prévu ou faire un geste, quelque chose qui, d'un coup, vient enrichir la scène. Et il faut être capable, à ce moment-là, d'accueillir ça et puis de savoir si ça va dans le sens du film ou si, au contraire, c'est hors sujet. Et très souvent, ils n'étaient jamais hors sujet. Donc, moi, j'étais ravi.
Alors, on a toute une partie du film qui se passe à Paray-le-Monial. Alors déjà, est-ce que vous étiez déjà, vous, un habitué de Paray ?
Pas du tout, j'y étais passé une fois, pas du tout dans un contexte de session. Donc on a fait un premier repérage, alors c'était pas repérage pour Hubert de Torcy parce que lui ça fait 30 ans qu'il y va, mais moi c'était un peu une première fois où je découvre les sessions, ça c'était un an avant le tournage, et après on y est revenu plusieurs fois pour parler avec le recteur de ce qu'on comptait faire, de comment on allait filmer les différentes cérémonies, etc. Et après, par contre, quand le tournage s'est approché à grands pas, nous, on est arrivés, on a pu, je crois, pu un peu assister à la session qui précédait, en fait, celle qu'on allait filmer pendant le tournage. Et je pense que pour la plupart des acteurs, c'était une bonne manière de s'immerger aussi dans l'ambiance du film. Et pour nous, l'équipe, quand le tournage a commencé, ça a été un vrai acte fondateur, en fait, pour tout le monde. Ça nous a tout de suite mis dans le film, en fait. On a tourné, en fait, d'abord l'acte central du film, en tout début de tournage, et ça a imprimé en fait beaucoup de choses pour la suite. C'est-à-dire que ça nous a aidé à préciser comment on allait raconter notre histoire avant Paray-le-Monial et comment on allait la conclure après. Donc c'était assez difficile, je dois dire, parce que c'était les scènes les plus compliquées du film. Il y avait beaucoup de figurations, beaucoup de vrais sessionnistes qui ont prêté leur concours. C'était beaucoup de stress aussi parce qu'on commençait à travailler aussi tous ensemble et on s'apprivoisait. Donc c'était pas du tout les scènes les plus simples. Mais une fois qu'on avait fait ça, j'allais dire après c'était que du bonheur parce que le film était lancé.
Donc ça veut dire que dès le démarrage, vous avez embarqué toute l'équipe à Paray ?
Quasiment, je pense que les seuls qui n'ont pas vu le début de Paray-le-Monial, c'est les acteurs qui arrivaient un peu après au château. Je pense à Didier Vincent qui fait le père Magnifice, je pense à Geoffroy Thiébaut et Carole Fantoni qui font le couple Moulard. Après, il y a aussi ceux qui ne sont pas du tout dans les scènes de Paray-le-Monial en tant que tels. Je pense à Karine Dubernay, enfin voilà, j'en oublie certainement d'autres. Ces acteurs-là, en fait, ils n'ont pas réellement vu les sessions, mais en fait, c'était quand même notre base arrière, même quand on tournait au château. Quand on tournait au château, toute l'équipe continuait à être hébergée à Paray-le-Monial. Donc ça, tout le monde, en gros, a un petit peu tâté de Paray-le-Monial, j'allais dire, même si ce n'était pas exactement les sessions et les séquences religieuses à proprement parler.
Et au niveau de l'équipe technique, ça donne quoi quand on embarque tout ce monde-là dans un univers a priori que bon nombre d'entre eux ne devaient pas, j'imagine, connaître ?
Ça les a beaucoup amusés, moi c'est ça qui dès le début m'a interpellé. Il y a une des membres de l'équipe qui a créé tout de suite un groupe WhatsApp qui s'appelait les Pieuses et les Pieux, alors ça nous amusait, donc il y avait tout le monde sur le groupe WhatsApp. Et c'est oui, je sentais que moi l'aspect religieux apportait une dimension supplémentaire à notre aventure en fait. Et j'ai l'impression que ça intriguait tout le monde, même pour ceux qui n'étaient pas croyants. Et même ceux qui étaient croyants, j'allais dire, en fait, parce que c'est pas souvent en fait que les films prennent place dans ce genre d'univers. Et en fait, l'équipe technique a complètement joué le jeu. Je pense qu'ils ont aussi tout de suite compris qu'on était dans un film, entre guillemets, un peu familial, ce qui était une première fois pour beaucoup de monde, et en tout cas pour l'équipe de production et pour moi. Et ils ont eu l'intelligence et la passion de se mettre au service du film et de contribuer à cette aventure collective.
Est-ce que vous avez... C'est un peu facile, mais je ne résiste pas. Une petite anecdote de tournage à nous partager.
En anecdote de tournage, si on en a parlé plusieurs fois aux spectateurs, parce que c'était assez amusant. On a une scène dans le film, en plus, qui pourrait être anecdotique, parce qu'elle est très courte, mais vous voyez le personnage d'Edmond qui arrive avec une vieille voiture de collection, avec un personnage mystérieux qu'on ne connaît pas. Et il se trouve que notre... Philippe Duquesne National a voulu essayer la voiture avant le tournage avec Pascal de Molon. Ils sont montés dans la voiture et en fait, ils ont failli se planter. En fait, ils ne trouvaient pas... pas la pédale de frein parce que c'est une pédale qui est très haute. Et sans le sang-froid de Pascal, je pense que la voiture partait dans le décor et on était foutus. Alors, on n'était pas au bout de nos peines parce qu'après, en voulant démarrer la voiture, il se trouve qu'ils ont cassé la clé dans la bagnole. Donc, on ne pouvait plus démarrer la voiture et ça a été toute une histoire pour faire venir un deuxième jeu de clé depuis Paris. Enfin bref, ça ne se voit pas l'image et tant mieux, mais ça fait partie des petites anecdotes croustillantes de tournage.
J'ai entendu beaucoup de rires ce soir. Pour cette projection, pour vous, pour un premier film, c'est tourner ces avant-premières au contact du public, parce que ce n'est pas la première avant-première à Bayonne ce soir. C'est comment ?
Ben, c'est beaucoup d'émotions, c'est une très grande joie de sentir que le public réagit. J'allais dire, moi, ça suffit à mon bonheur d'entendre qu'un public rit. C'est pour ça en fait qu'on travaille depuis autant de temps sur ce film. Donc oui, moi je suis toujours très touché et très ému d'entendre qu'une salle réagit à ce qu'on a fait. Moi, je suis à titre personnel un spectateur friand de comédie, donc je sais le bonheur que ça peut apporter de rire devant un film. Donc à notre petite mesure de savoir que les gens peuvent sourire et s'amuser et se détendre et oublier parfois les tracas de la vie devant un film et devant notre film et devant mon film à moi, c'est quelque chose qui est une belle émotion pour moi, oui.
Donc là, vous avez une tournée dans toute la France avec vos avant-premières et la sortie nationale est dans quelques jours.
Si je dis pas de bêtises, dans 2 semaines, là, on arrive quasiment à la fin de notre marathon d'avant-première où on avait quasiment 55 salles, enfin ramassées sur un peu moins de dates, mais ça fait beaucoup, beaucoup de déplacements. Là, on arrive vraiment sur la fin, là. Donc effectivement, ce déplacement à Bayonne-Dax signe bientôt la fin voilà, de notre tournée. Et on a hâte et aussi un petit peu d'appréhension à ce que le film sorte sur tous les écrans, sur tout le territoire.
Donc la date, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 7 mai, c'est ça ?
7 mai, exactement. Il faut que tout le monde soit au rendez-vous et voit le film, on espère, dans les premières semaines pour que le film puisse se maintenir à l'affiche. C'est une compétition féroce, hein, à ce que j'ai cru comprendre.
Eh bien, c'est bien tout ce qu'on vous souhaite donc, pour ce film de mauvaise foi, qui est un vrai moment de bonheur où on rit vraiment beaucoup. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.